ma sa pavio da ma loci da ma
zvijeko priječu gralja ma sa pavio da ma loci da ma.
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez l'émission de Vie Féminine Bruxelles, Elles en parlent encore. Je m'appelle Magali et j'animerai aujourd'hui cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la place des femmes dans le milieu du hip-hop et plus particulièrement dans celui du rap et du slam. Et donc ce hip-hop qui est né des quartiers populaires, qui est un art largement porté, en tout cas dans ses origines, par les hommes. Nous aimerions parler avec les invités que nous avons aujourd'hui sur la place des femmes dans ce milieu-là. Nous devons excuser Myriam Al-Sharif qui devait nous rejoindre mais qui est coincée à Namur. Mais heureusement, nos deux autres invités sont là et donc je vais leur laisser la parole pour se présenter.
Bonjour, je m'appelle Alain Lapiovert et je dirige une association qui s'appelle Les Arts Urbains, qui travaille dans le domaine des cultures urbaines et notamment dans le domaine du rap depuis de longues années maintenant.
Merci. Claudio ?
Bonjour, Claudio, slameuse, poétesse. J'ai fondé Slamix, un mouvement qui parle des genres et des sexualités.
Merci. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez définir donc ce qu'est le rap, le slam, les différences, leurs origines ? Alain, tu veux peut-être répondre à cette question ?
Oui. Bon, c'est tout un programme. Hein. Donc, le rap et le slam, déjà, pour commencer, donc, n'ont pas tout à fait la même histoire, le même parcours. Donc, le rap est plus ancien. Le rap, c'est d'abord un texte. Hein. Il faut dire quand même, c'est très important, c'est d'abord un texte et une voix qui sont posés en rythme sur une musique. Et donc c'est un genre qui est né aux États-Unis dans les ghettos, ce qu'on appelle les ghettos, donc les quartiers populaires des grandes villes nord-américaines. Je dirais que c'est né au milieu, à la fin des années 70. Dans la foulée des rythmiques funk et tout ça, c'était porté principalement par toutes les personnes qui étaient dans un courant à l'époque qui était quand même assez fort, qui venaient des musiques. Donc c'est surtout le fait des Noirs, le mouvement qui venait de d'autres musiques encore, qui avaient des racines dans le blues, le rhythm and blues et tout ça, le funk. Et donc il y a eu cette mode, parce qu'au début c'était une mode de poser un texte d'abord simplement, un texte d'animation, qui consistait simplement donc à exhorter la foule dans une soirée, à s'amuser, etc., en rythme sur les musiques que mettait le DJ. Et de fil en aiguille, disons que vu la situation aussi objective, qui était quand même une situation très très dure sur le plan social dans tous ces quartiers, il y a eu une envie très forte, non plus de simplement faire de l'animation et s'amuser au micro, mais de raconter des choses qui se passaient autour de soi. Et c'était une réalité à ce moment-là qui était évidemment que le monde a découvert un petit peu avec les yeux écarquillés, à savoir que dans la plupart des grandes villes nord-américaines, il y avait une situation explosive sur le plan social. Et il suffisait simplement, dans un premier temps, de raconter ce qu'on voyait au quotidien dans ces quartiers. Et donc, le rap est né comme ça. Il y a eu un morceau fondateur qui s'appelait The Message, qui a été créé par un des premiers rappeurs, donc qui s'appelait Grandmaster Flash, et qui racontait simplement son quartier. Et il a eu ce fameux refrain célèbre, donc qui était « It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under ». Donc, comment je fais pour tenir ma tête hors de l'eau dans cette jungle, etc. Et je me demande comment je fais pour tenir le coup. Et donc, à partir de là, le mouvement rap est né, il s'est répandu dans le monde entier. Et il a d'abord été porté par les gens qui se sont reconnus, en fait, dans ce mouvement et cette prise de parole, qui était quand même une prise de parole très, très, sinon revendicative, en tout cas, disons, protestataire, sûrement. Et la plupart des laissés pour compte de toutes les banlieues, de tous les ghettos du monde occidental dans un premier temps, puis par la suite aussi dans d'autres parties du monde, se sont vraiment identifiés à cette parole qui essaie de retrouver vraiment la dignité. Et donc c'est arrivé en France dans les années 80, à la fin des années 80, en Belgique aussi. Et par la suite, donc plus récemment, donc ces 5-10 dernières années, le mouvement du rap. Donc je parle ici toujours du rap avec ce contenu protestataire et identitaire, donc pour les personnes qui vivent dans ces quartiers, tous ces quartiers très durs. Donc ça s'est répandu dans toute l'Afrique, où il est maintenant vraiment le vecteur numéro un de la protestation de toute la jeunesse dans tous les pays d'Afrique. Il y a un mouvement rap très très fort, ce qui est quand même assez réconfortant et intéressant sur le plan culturel, que de voir que tout le chemin qu'a fait donc depuis les esclaves qui sont partis d'Afrique, qui ont été aux États-Unis, et là où le rap est né, et puis s'est retourné en Afrique. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à signaler, quoi. Donc voilà pour le rap. Le slam, c'est différent. C'est une autre histoire. Je raconte maintenant ou... Parce que c'est peut-être un peu long.
Peut-être que Claudio peut un peu dire ce que c'est que le slam, comme tu es slameuse.
Alors, le slam, Alain, si je me trompe, fais-le-moi savoir. C'est donc un nouvel art déclamatoire populaire. Il a été inventé par Mark Smith en 1984. Mark Smith, poète et ouvrier en bâtiment. Donc c'est bien un mouvement poétique à la base. Mark Smith s'ennuyait dans les micros ouverts poétiques et donc il voulait redynamiser ces scènes ouvertes. Comment ? Avec une forme de championnat. Donc slam veut dire chelem. On fait des chelem de bridge, de basket. Et donc voilà, petit à petit, il a mis des règles en place. C'est 3 minutes, pas de musique, pas d'accessoires, pour permettre à tout le monde d'être à égalité. Il faut relativiser cette vision de la compétition. Les micros ouverts existent beaucoup plus que les compétitions. Et Mark Smith a dit, l'important, c'est pas le point. Le point important, c'est la poésie. Oui, moi ça me fait penser aux Jeux Olympiques où l'important c'est de participer et pas de gagner. Alors ensuite, je dirais que c'est un mouvement égalitaire, démocratique et participatif. Parce que donc justement les 3 minutes sont faites pour que un maximum de poètes, slameurs, personnes qui veut dire quelque chose puissent passer. Et dans le slam, il y a la volonté de répandre la poésie partout. Donc il y a des slams sauvages qui s'organisent dans des lieux inhabituels tels que les marchés, les métros, les bureaux de poste et autres parcs publics et autres lieux où la première chose n'est pas de présenter un produit culturel.
Voilà. Merci Claudio. Est-ce que Alain, tu souhaites compléter brièvement
Oui, juste sur le lien, puisque manifestement, de façon intuitive, en tout cas toi, tu as fait un lien entre les deux mouvements. Il y a un lien historique. Ce lien est que, donc dans les années 80, en fait, justement, beaucoup de rappeurs ont rallié la scène slam. Et parce qu'au départ, elle était occupée principalement par des personnes qui venaient plutôt des milieux du rock, et du rock alternatif, et en particulier du mouvement punk et tout ça, où il y avait une tradition. Il faut quand même dire qu'aux États-Unis, il y a toujours eu une tradition très forte de paroles, spoken words, comme on dit en anglais. Disons que la forme que Mark Smith a initié, donc que Claudio a décrite, donc avec 3 minutes et tout ça, convenait bien pour les petits cafés et tout ça à ce moment-là. Et donc les personnes candidates qui au départ sont présentées là-dedans, c'était des gens qui venaient surtout du rock, ça leur convenait bien. Et puis en fait, historiquement, comme le mouvement rap est né, s'est développé dans les années 80, c'est à partir des années 90 que on a vu déferler dans les soirées rap, dans les soirées slam justement, une nouvelle génération, une nouvelle population de poètes qui venaient du rap. Et donc ils sont complètement investis là-dedans. Et donc depuis, on fait souvent le lien. Et de fait, les slameurs les plus connus, par exemple en France, les deux slameurs qui ont fait un succès commercial, je pense ici à Grand Corps Malade ou à Abdelmalik, tous les deux viennent du rap. Et justement, c'est pas par hasard, c'est parce qu'en France aussi, les débuts du slam, donc dans les petits cafés, je ne sais plus comment s'appelaient ces bistrots à Paris, La Cigale, je crois. Je ne sais plus. Il y avait quelques cafés donc, où il y avait du slam. Au début, c'était porté par la génération du rock un petit peu décadent, comme Nada et tout ça, qui étaient des poètes écorchés vifs comme ça. Et donc, par après. Ce n'est que par après donc que les rappeurs, et souvent c'est à partir d'un certain âge, on constate ça, à part Claudio qui est beaucoup plus jeune, mais souvent c'est les rappeurs à partir d'un certain âge qui décident d'aller faire du slam.
Merci Alain. Tu viens de citer donc deux slameurs très, très connus. Notre émission porte sur la place des femmes dans ce milieu-là. Donc, la question que je voudrais vous renvoyer à tous les deux, c'est quelle est la place des femmes dans le milieu du rap, du slam? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, si elle est pertinente, c'est est-ce qu'il y a entre le rap et le slam, est-ce qu'il y a un art qui serait plus facile, peut-être, pour les femmes, si, parce que nous partons de ce postulat, mais peut-être qu'il faut le contredire. Voilà, en tout cas, la question c'est quelle est la place des femmes dans ces milieux-là, les difficultés, les avancées, etc., etc. Voilà. Donc je propose qu'on commence par là et qu'on fasse une petite pause musicale et on continuera. Claudio, tu veux répondre sur cette question?
Allez. Donc la place des femmes dans le slam et le rap. Alors moi je ne parlerai que du slam parce que le rap je ne connais pas bien et que je n'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, quand je suis arrivée l'année passée sur la scène slam, je me suis sentie assez seule, sur Bruxelles en tout cas. Un an plus tard, je me sens pas du tout seule, donc sur Bruxelles. Sur Bruxelles, il y a Monique, la voisine du théâtre de la Traversière, Suzanne Ferry, Pascal Oué et Naloy. Et sûrement que j'en oublie, donc Marie M fait aussi du slam.
Du rap.
Du rap. Elle fait que du rap. Moi, je l'ai entendu sur des
slams.
Oui.
Elle n'est pas de Bruxelles.
Elle n'est pas de Bruxelles, elle est de Namur, c'est vrai. Voilà. Alors, à Liège, beaucoup, beaucoup de femmes. C'est très mixte. Donc, il y a Christiane Mutiwana, qui fait partie du collectif Don d'Organe, dans lequel où j'appartiens aussi. Oriane et Céline K. À Montréal, il y a Isabelle Saint-Pierre et La Louve. Et voilà, donc oui, il y a une belle mixité en ce moment, en tout cas. Ça fluctue, mais voilà, oui. Moi, c'est tout ce que je peux dire.
Il y en a encore deux, trois.
Oui, il y en a encore deux, trois que je
pense. Personnalité. Mais il y a aussi pas mal de slameuses occasionnelles, c'est-à-dire qu'on voit de temps en temps, puis qu'on voit plus. Il y a eu, par exemple, Mimi, on l'appelait comme ça, donc Meryem Messaoudi, qui a fait quand même une forte impression il y a un an ou deux. Il y avait encore deux. Enfin, encore quelques slameuses. Enfin bon, il y en a. Par contre, dans le rap, je dois vous quand même reconnaître qu'il y en a vraiment très peu. Il y a très proportionnellement, c'est même pas 1 à 10. Hein.
Et tu as une explication à ça? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce qu'il y a des milieux où c'est quand même plus difficile de s'exprimer? Enfin, je trouve que c'est intéressant de s'interroger là-dessus. Enfin.
Oui, alors il y a beaucoup à dire. C'est compliqué. En fait, au départ, ce que je dis toujours quand on m'interroge là-dessus, c'est que d'abord, je demande à mes interlocuteurs de bien ouvrir leurs yeux sur ce qui se passe en général dans l'art, et en particulier les arts de la scène. Bien se rendre compte que ce soit dans le rock aujourd'hui ou dans la chanson, ou n'importe, il y a très peu de femmes. C'est une réalité. J'ai encore récemment, parce que j'assiste par mon travail à énormément d'événements de toutes sortes en musique, de rock, et je me suis fait cette réflexion. Il y a très peu de femmes. Je ne suis même pas sûr que proportionnellement, il y ait tellement moins de femmes dans le rap que dans le reste. Franchement. Hein. Donc, souvent, il y a comme ça un peu une tendance à reprocher au rap des choses qui, finalement, ne sont pas tellement l'apanage du rap uniquement. Mais bon, il est vrai qu'il y a, disons, une tendance peut-être un peu plus machiste dans le rap. Alors là, maintenant, pour expliquer ça, il y a un tas de choses à dire. La première, c'est que effectivement, le rap est quand même une musique, un mouvement qui est né, sinon dans la rue, en tout cas, qui est né de la rue. Avec l'esprit de la rue. Alors l'esprit de la rue est un esprit foncièrement machiste. Les filles ne traînent pas en rue, et en particulier dans les quartiers populaires, certainement pas. D'abord tout simplement parce que c'est pas dans la culture naturelle dans ces quartiers-là. On laisse pas les filles traîner en rue. C'est dangereux, déjà. Et ensuite, c'est pas, je veux dire... les femmes doivent rester à la maison. Enfin, je dois pas faire un dessin. On sait comment ça fonctionne. Par ailleurs, il faut quand même pas oublier que dans nos pays occidentaux, les quartiers populaires sont occupés majoritairement par des personnes issues de l'immigration et souvent issues de pays d'immigration où il y a des traditions, des cultures qui sont des cultures très très machistes et où la femme a une position difficile, et pas seulement les pays musulmans, par parenthèse. Les pays catholiques, c'est pareil. Quand on va dans le sud de l'Italie, ou la Grèce, ou je ne sais quoi, c'est absolument pareil. Donc je déteste qu'on stigmatise sur cette question, en faire un rapport avec la religion. Donc il y a ça. Et oui, il y a donc le fait que le rap aussi est un mouvement qui a gardé donc dans sa tradition, enfin dans les valeurs qu'il a développées, un certain nombre de choses qu'il a héritées de cette espèce d'éthique de la rue, et qu'il porte même, qu'il revendique. Et un certain nombre, bon, malgré que je sois un grand défenseur du rap, et que je me bats même pour que cette musique et ce courant puissent se développer, s'exprimer, disons qu'il y a des choses qui sont un peu moins séduisantes dans ce courant, et en particulier sur cette question-là. C'est un peu ambigu, disons. C'est-à-dire qu'on a laissé pas mal de textes et de points de vue s'exprimer qui sont sinon carrément rétrogrades, en tout cas qui sont ambigus sur la question du rapport avec les femmes.
Merci Alain. Donc avant de continuer plus longuement sur cette question, nous allons faire une petite pause musicale avec du slam, je crois.
Pimpin perdu dans la forêt noire, je vivais un cauchemar, poursuivi par des pommes paysannes, paix de nonnes et autres religieuses. Harcelé de tous côtés par ces laides créatures, mon seul remède c'était la triste biture. La triste biture attitude, la triste biture attitude. Pimpin perdu dans la forêt noire, diplomate bavarois au flair fin qui divague soudain. À la croisée des chemins je devins Baba. À la croisée des chemins, j'humais la fumée de son délicieux fumet. Belle Hélène est belle. Belle Hélène est belle. Sur le champ, j'enfilais mes petons dans mes chaussons aux pommes d'api. Tapis dans ma tanière, j'en sortis et sprintais tellement tout essoufflé, j'atteignis un verger vert. Son vierge verger. Et vers lui, j'eus envie d'y pointer ma verge si elle me donne le feu vert. Belle Hélène, son feu vert. Belle Hélène, son feu vert. Tes airs me donnent des ailes, tes nectarines m'appellent. Envie de te dénoyauter, ma reine Claude, toute tendre de mes dents acérées, te fendre et sentir le noyau bouger. Belle Hélène, je l'aime. Belle Hélène, je l'aime. Telle Proust, je te goûterai dans un bain-marie. Mamie, ma Charlotte aux fraises, ton absence me pèse. Ça ferait frémir mes mille feuilles et mon cœur à la crème battra la chamade. Je suis mad, mad, mad de toi. Belle Hélène, je t'aime. Belle Hélène, je t'aime. T'occuperas-tu de ma cuisine intime, petite câline? Car je l'ai vomi, ces pommes paysannes, paix de nonnes et autres religieuses. C'est mes germes ménagères pourries de moi en moi par les petits choix de leurs émois. Alors si tu me le permets, je préfère toi, ma marquise au chocolat, mon île flottante à moi. Belle Hélène, est-ce que tu m'aimes? Belle Hélène, est-ce que tu m'aimes? Elle me répondit stoïque. Ce sera pas toi mon cum coco, t'es trop collant. Je ne serai jamais ta poire, petit chou, t'es un gars trop violent. Tu donnes des prunes, des châtaignes, des marrons et même des pêches à tes chéris. T'es un vrai poison, je veux pas être réduite en purée ni en bouillie par tes drôles de guili-guili. Ça, c'est de la femme. Belle Hélène, je l'aime encore. Belle Hélène, je l'aime plus fort. Alors je me laisse pas démonter, je persévère, poursuis en pleine lancée. Je dégusterai tes mandarines et tremperai ma grosse madeleine dans ta sauce chocolat. Ah là là, je te dis que ça. Belle Hélène, c'est toi que j'aime. Belle Hélène, c'est toi que j'aime. Devant le refus éternel de ma belle Hélène, j'essuie ma déconfiture de madeleine toute déconfite, je périclite. Parce que je ne voulais qu'elle. Belle Hélène, c'est toi que j'aime. Belle Hélène, c'est toi que j'aime. En vain de moi, elle ne voulait rien. Je rangeais mon asperge dans son écrin de chagrin, le visage laminé de larmes. Manque ma lettre et malheur, c'était mon humeur. Manque ma lettre et malheur, c'était ma tumeur. Je ne voulais qu'elle. Belle Hélène, oui, elle. Restait plus qu'à retrouver ces pommes paysannes, paix de nonnes et autres religieuses, m'ouvrir un petit rouge et noyer mon cœur dans les vapeurs de liqueur. C'est la triste biture attitude, c'est la triste biture attitude, c'est la triste peau de bite balayée par un écran féminin.
À bon entendeur, salut.
Merci Claudio pour ce beau passage. Donc vous êtes sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez l'émission de Vie Féminine Bruxelles, elles en parlent encore. Sur le thème de la place des femmes dans le milieu du hip-hop et du rap et du slam plus particulièrement. Claudio, est-ce que tu pourrais donc continuer sur cette question qui est quelle est la place des femmes donc dans le slam. Enfin, quelle est ton expérience personnelle dans ce domaine-là?
Alors, mon expérience personnelle. Moi, je suis poète à la base. J'écris à la base et je ne suis pas chanteuse. Donc, ce que je cherchais avant de rencontrer le slam, c'était des personnes capables d'arranger mes textes. Je peux être mélodiste, j'ai des mélodies à mon actif avec des textes qui sont au frigo. Mais je ne me sens pas capable de chanter sur scène. Et donc le rap, comme c'est de la musique à la base, enfin en tout cas, il n'était pas, enfin pour moi c'était pas, faire du rap n'était pas possible à l'époque où j'ai commencé à faire du slam. Et puis bon, maintenant oui, le rap m'intéresse parce que ça vient petit à petit que le slam, qu'il y a cette connexion avec les rappeurs que j'aime beaucoup. Et voilà, mais à l'époque, ce n'était pas possible. Enfin, c'était pas mon intention de faire de la musique. Mon intention, c'était de donner des paroles à un groupe. Et puis, comme je ne trouvais pas, eh bien, je me suis produit moi-même.
Merci Claudio. Tout à l'heure, vous avez cité des noms de femmes, des rappeuses, des slameuses, et vous disiez qu'effectivement, on pouvait constater qu'il y avait plus de slameuses que de rappeuses. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Est-ce que c'est un hasard? Enfin, en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, Alain, sur la difficulté pour les femmes de prendre leur place, de par l'origine même du rap.
D'abord, il y en a un peu plus. Il n'y en a pas. Je trouve pas ça. C'est pas un truc fulgurant, enfin ni bon, c'est pas un rouleau compresseur. Hein. Il y a plus de femmes, disons, dans le slam. Alors, je pense que tout simplement le mouvement du slam n'a pas le même caractère du tout que celui du rap. Il est beaucoup plus ouvert. Et il est d'ailleurs fondé sur l'ouverture. Donc c'est une rencontre. Le slam est une scène où se rencontrent des personnes qui viennent de courants culturels et esthétiques très différents. Il y a des gens qui viennent de la chanson, des gens qui viennent du rap, des gens qui viennent du théâtre, des gens qui viennent du rock, et des gens qui viennent de la poésie. Donc tout le monde se rencontre, et donc c'est un mouvement qui, par essence, est quand même assez diversifié. Et il est diversifié aussi dans les valeurs qui sont sous-jacentes. Même si il y a une valeur, disons, démocratique, une valeur de prise de parole qui est portée, quand même, c'est beaucoup plus diversifié que dans le rap, où il y a, à la base, un point de vue, une esthétique, et des valeurs qui sont quand même sur une autoroute, quoi. Là, ça, le slam, ça part un petit peu. Donc ça, c'est la première chose. Je crois que c'est quand même important. D'autre part, le rap est aussi un mouvement très collectif. Même si ce sont des individualités individualistes, c'est un mouvement collectif. Le slam est moins ça. Il est beaucoup plus des personnes qui convergent vers une scène et où il y a un petit peu toutes sortes. Et donc je pense que, par définition... Et alors, il y a beaucoup moins cette pression. Il y a quand même une pression identitaire dans le rap qui est très forte, quoi. Il y a quand même une dominante dans la façon de s'habiller, la façon de se comporter. Tous les groupes, les artistes sont dans des collectifs, des crews, des clans qui sont en rivalité. Tout ça, il n'y a pas ça dans le slam ou quasi pas. Il n'y a pas de... Ce phénomène de clan et tout ça n'est pas présent dans le slam. Donc ça laisse quand même la porte ouverte beaucoup plus à des femmes.
Claudio, tu voulais réagir?
Oui, le slam est aussi ouvert à l'erreur. Donc dans un micro ouvert, on peut avoir un trou de mémoire, on peut avoir son texte aussi... si on en a besoin, qu'on ne le connaît pas par cœur. C'est pas quelque chose qui s'adresse à des pros, comment dire, vous voyez, tu vois?
Oui, je vois.
C'est que, oui, comme c'est ouvert à tout le monde, il y a cette richesse magnifique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, parce que tous les autres arts de la scène sont promus par des personnes qui sont professionnelles. Dans un micro ouvert, il y a des personnes qui, pour la première fois, déclament leur texte. Et moi, c'est ça que j'aime dans le slam. C'est cette part d'improvisation spontanée, libre.
Mmh. Oui, ça, c'est quand même important, hein, ce que Claude dit. C'est, en tant que scène, le slam est quelque chose de beaucoup plus détendu. Le rap n'est pas détendu. Le rap, il est dans une tension. Fondamentalement. Mais alors, il y a une chose que je voulais dire, une des raisons importantes aussi qui fait qu'il y a plus de place pour les femmes dans le slam, c'est la maturité. C'est-à-dire que le mouvement du rap est un mouvement très adolescent. Il est très jeune au sens où souvent ce sont donc les artistes majoritairement sont beaucoup plus jeunes dans le rap que dans le slam. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que beaucoup de rappeurs viennent au slam après un certain temps. Hein, c'est comme ça qu'en tout cas, ça s'est passé à Bruxelles aussi, mais je pense même aux États-Unis et en France. Ben, de toute façon, si on voit par exemple Abdelmalik, il a fait du rap pendant X années, puis il est venu au slam. Maintenant, ben bon, il a presque 40 ans, quoi. Donc... à Bruxelles aussi, on a vu ça. On a vu, par exemple, un Pitchot commencer à faire du slam après avoir fait du rap pendant X années. Quoi.
Une question que j'avais envie de vous poser à tous les deux. Est-ce que les milieux du rap sont plus difficilement accessibles, le slam plus accessible, mais il n'y a quand même pas une parité, si je puis dire. Est-ce que les femmes développent des stratégies pour... monter sur scène ou s'exprimer devant le micro. Alors, tu disais que le rap était quelque chose de plus collectif, le slam plus individuel. Voilà, c'est une question que j'avais envie de vous poser. Quelles sont les stratégies qu'on peut développer ? Si on doit en développer, peut-être que c'est facile, mais...
Oui, moi, je veux bien répondre à ça. La première fois que je suis montée sur scène, je me suis fait passer pour Thibaut. Oui, donc c'était au Théâtre des Tanneurs. J'étais verte parce que il y avait plus de place pour le micro ouvert, sachant qu'il y avait 5 places et j'étais arrivée super à l'heure pour pouvoir m'inscrire et ben non. Voilà. Donc ça allait pas du tout. J'étais dans le public et j'étais là je ne passerai pas ce soir, ça va pas. Alors il y a eu une personne qui n'est pas passée. Et là, je me posais la question, tiens, est-ce que j'y vais ? Je me fais passer pour cette personne. Et il y a une deuxième personne qui n'est pas passée, donc on l'appelle et la personne ne vient pas. Et donc, moi, je monte, voilà, je dis c'est moi, et je commence. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe que dans le slam, ce genre de choses, je pense. Dans tous les autres, sur toutes les autres scènes, je me serais fait jeter, je pense. Vraiment, enfin, je n'aurais pas osé le faire et là la question se pose dans le slam de, oui, voilà. Alors après, je me suis fait un peu rabrouer. Ça a été ma stratégie tout à fait spontanée.
Stratégie individuelle.
Oui.
Ce n'est pas une stratégie de femme, ça. C'est une stratégie d'artiste qui veut y aller, quoi. Enfin bon. C'est vrai que, déjà de manière générale, c'est quand même une vérité dans tous les courants artistiques. Comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et il faut se battre pour gagner sa place. Ça, je crois pas que c'est vrai pour les femmes, pour les hommes. Maintenant que tu as posé cette question de stratégie et tout ça. Alors là, disons que c'est plus l'opérateur culturel et le responsable du travail culturel qui va répondre. De manière spontanée, il n'y a pas beaucoup de stratégies de la part des artistes féminins pour essayer d'entrer ni dans le rap ni dans le slam. Parce que de manière spontanée, je ne sens pas, en tout cas en Belgique, de revendications naturelles pour se pousser en avant, essayer de gagner une place. Alors ça pose question peut-être, mais c'est la réalité. Alors, à l'inverse de ça, nous, dans l'association où je travaille, on a eu une réflexion là-dessus. Enfin, on a une réflexion permanente sur cette réalité. Et par rapport à des valeurs que nous avons et des idées, on a décidé qu'on voulait qu'il y ait plus de présence féminine dans le rap et dans le slam et dans tout ce qu'on fait. Et dans la mesure où cette situation ne s'améliore pas d'une manière fulgurante, de façon spontanée et naturelle, nous avons décidé d'avoir une attitude active et un positionnement là-dessus. D'ailleurs, je pense, par rapport à beaucoup de choses, c'est comme ça. Les situations, les rapports sociaux en matière de prise de parole, de manière naturelle, ne sont pas égalitaires. Que ce soit sur la question des femmes, mais aussi sur la question sociale en général, ou sur la question des origines culturelles, etc. Il n'y a pas ça. Il faut, si on veut changer les choses, il faut les changer d'une manière active et parfois militante. Donc là-dessus, on a décidé d'avoir carrément, je le dis, alors c'est sujet à discussion, j'en conviens, mais on a décidé d'avoir une politique de discrimination positive. C'est-à-dire que on a favorisé, on a poussé dans le dos quand il y avait moyen, parfois trop. Il y a un cas spectaculaire à Bruxelles. On a parfois poussé beaucoup les femmes à prendre des places. Et on veille souvent, notamment, c'est pas que pour le rap et le slam, c'est aussi pour la danse, par exemple. Donc on a vraiment poussé. Beaucoup de femmes, par exemple, quand il y avait un embryon de volonté, on a poussé à fond, quoi. Ça a été le cas pour Ipoun, par exemple. Je l'ai vraiment poussé à fond. Et je crois que seule, elle n'aurait même pas osé aller si loin. Et donc, ça, ce sont des politiques culturelles, que ce soit à notre niveau ou au niveau de certains opérateurs de grandes salles et tout ça, les choses se font pas toutes seules. Enfin, moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas à la génération spontanée dans ce domaine. Donc, il y a des choix qui sont faits. Et on les fait. Et donc, c'est vrai que, par exemple, quand nous voyons dans le rap qu'il y a des filles qui veulent le faire, tout de suite, on essaie de soutenir pour que ça aille plus loin, quoi. Et c'est vrai que, bon, bah, par exemple, Myriam, qui devait venir, qui n'a pas venu aujourd'hui, on fait tout ce qu'on peut pour l'aider, quoi. Mais je veux dire, c'est pas que comme ça. C'est aussi parce que c'est vrai, il y a un enjeu.
Je crois que ce que tu dis est valable dans tout domaine. Quand on travaille sur la question des femmes, que ce soit dans d'autres domaines, c'est parce qu'il y a une politique derrière et que c'est pas le fait de volonté individuelle, mais qui sont évidemment au départ importantes pour pouvoir démarrer quelque chose. Claudio, par rapport à ce qu'Alain dit, est-ce que tu te reconnais là-dedans ou...
Discrimination positive. Alors, en effet, moi, je ressens que je suis l'objet de discrimination positive. Je suis une femme, alors je suis appelée partout. Et alors, d'autant plus que, donc, avec Slamix, ouais, c'est explosif, quoi. Parce que je parle de genre et de sexualité. De rapport homme-femme, homme-homme, femme-femme. Et dans une certaine mesure, ça m'ennuie. Parce qu'on me renvoie à « oui, tu es une femme, donc tu es discriminée ». Mais moi, en fait, c'est pas ce que je ressens dans la vie de tous les jours. Oui, bien sûr que j'ai ressenti que, enfin, quand je passe rue de la Queune, qu'on me traite de pute ou de salope, simplement parce qu'il est 11 heures du soir. Bon, oui, ok, mais pour moi, c'est pas tous les jours que je ressens que je suis une femme. Et voilà. Ouais, c'est assez ambigu. Moi, c'est difficile. C'est difficile d'être discriminée positivement aussi. Je peux c'est très chouette. Hein,
enfin... Je peux bien imaginer ça. Cela dit, bon, on n'a pas toujours non plus crié sur tous les toits qu'on faisait ça. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, on a organisé certaines soirées. Je me rappelle, un de nos festivals, parce qu'on a chaque année un festival, on a vraiment poussé tous les groupes féminins. On a fait venir un groupe de danseuses de France exprès. Et on a intitulé la soirée Ladies First, parce qu'on voulait vraiment créer une dynamique comme ça. Et prouver quelque chose, non seulement aux femmes, enfin aux danseuses, donc qui avaient moyen, mais aussi faire accepter aux hommes du mouvement qu'il y avait la qualité et tout ça. Parce que bon, c'est tout un processus compliqué. Mais alors, je dois quand même dire que c'est un pas en avant, deux pas en arrière, parce que ça, c'est tellement fragile, ça ne s'est pas du tout installé. Je ne sens pas que depuis ces 10 dernières années, on a inexorablement avancé dans ce domaine. J'ai plutôt la sensation que ça n'avance pas beaucoup. On a réussi des choses antérieurement que maintenant on n'arrive même plus à faire. Je sens, enfin, je sais pas, peut-être que Claude peut dire quelque chose à ce sujet, mais moi, je ne sens pas un mouvement, je parle même pas de féministe, mais féminin, tout simplement. Je ne sens pas dans les cultures urbaines, d'ailleurs dans les cultures en général, je trouve qu'on est plutôt dans une période de régression sur la question. Je trouve qu'on a beaucoup moins d'avancées démocratiques dans le domaine des rapports hors-femmes sur le plan culturel qu'il y a 20 ans, par exemple. Je suis un petit peu amer là-dessus.
Ouais. Merci Alain. Donc avant de poursuivre notre émission, nous allons faire une deuxième pause musicale.
Est-ce que tu veux que je lance un autre morceau de Yo ou autre chose?
Claudio, c'est bien.
D'accord.
On fait du graphe dans la rue, on fait les mille et une gaffes, et j'ai seulement 13 ans et demi. Pile, je suis dans le bus en Bermuda, je rentre de l'école, même si ça se voit pas, il fait chaud. C'est la canicule. Il y a des filles presque à poil à côté de moi. Il y a du soleil et des nanas, la la li la la la, on va s'en... Oh là là. Oh là là, que m'arrive-t-il? Mon slip, il s'agite, c'est la première fois que je ressens ça. Plus il s'agite, plus je flippe. Qu'y a-t-il dans mon slip? Que m'arrive-t-il? Je suis dans le bus en Bermuda et tout le monde le regarde, ce bâton en béton. C'est la gêne, c'est la gêne, c'est la gêne, c'est Jig, mon gigot, qui gigote, qui gigote, qui gigote, qui gigote. J'entends à côté de moi. T'as vu celui-là? Je voudrais pas d'un mec comme ça. Je vois des yeux réprobateurs, d'autres accusateurs, des regards exorbités de vieilles mamies, des femmes au foyer terrifiées, je vois même aboyer leurs toutous et grimacer les bébés. Je voudrais me pendre. Je voudrais me pendre, leur dire que c'est pas ma faute, cette gaule aussi gigantesque que mes fresques. Je pense à ma mère, à mon père, au prof que je déteste le plus, au ton qui me colle à l'école, aux scènes des films d'horreur, aux snotebelles de ma petite sœur, à mes plus dégoûtants dégueulis, à toutes mes peurs, tous mes malheurs. Rien à faire. Cette odeur de fille jolie en tête ma juvénile tétine trop têtue. Freddy, mon meilleur ami, se ramène. Il se marre. Et me dit... Eh, hey, Rocco, t'as quand même une bosse, même si c'est pas celle des maths, petit mateur. C'est le slam d'un slip qui s'agite, c'est la leçon de tous les garçons. C'est la chanson du caleçon. Moi, je m'appelle Rocco et mon meilleur ami, c'est plus Freddy. J'ai seulement 13 ans et demi et je continue ma vie.
Bonjour, vous êtes sur Radio Panique 105.4. Vous écoutez l'émission de Vie Féminine Bruxelles, elles en parlent encore. Le sujet de notre émission aujourd'hui porte sur la place des femmes dans le milieu du hip-hop et plus particulièrement dans le rap et le slam. Donc je vais rebondir sur ce que Alain disait donc sur la question de la place des femmes dans le enfin, la nécessité d'une politique assertive par rapport à la place des femmes. La question suivante que je souhaiterais poser aux deux intervenants, c'est est-ce que vous pensez que les femmes, quand elles s'expriment, que ce soit dans le rap ou le slam, elles ont un contenu particulier? Est-ce qu'il est distinct des hommes, pas distinct des hommes? Claudio, toi, dans ce que tu dis, tu avais déjà fait allusion à ça, juste avant la pause musicale.
Mais, moi, cette question-là m'ennuie. M'ennuie très fort parce que j'écris en tant qu'être humain, oui, qui a des chromosomes XX. Et puis voilà, je me retrouve pas dans... J'ai choisi le pseudo Claude Io pour justement un peu planquer cette réalité que je n'ai pas. Moi je suis perdue quant à ces questions-là, et en tant que j'écris en tant que femme parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est arbitraire. Je suis née en tant que femme. Bon ben voilà, le spermatozoïde de mon papa était X. Voilà. Est-ce qu'on demande à un homme, oui, est-ce que vous écrivez différemment d'une femme, je sais pas, ou à un Belge d'origine congolaise, tiens, est-ce que votre couleur de peau influence Moi, ça me paraît évident, voilà. Alors, qu'est-ce que j'aborde, moi? J'aborde les catégorisations sociales, beaucoup. J'ai abordé le viol, les transformations du corps aussi m'intéressent beaucoup.
Du corps féminin ou des corps en général?
Des corps en général, de la gestion qu'on peut en avoir. Donc là, le jeune slip, c'est quand même un adolescent qui a une érection dans le bus. Et voilà, je crois qu'un homme aurait pu aussi l'écrire, sauf que peut-être que les hommes ont moins envie de parler de ce qui peut être senti comme une honte sociale. Voilà, il y a très peu de textes aussi sur les règles, quoique Céline K en a un très beau en slam. Voilà, donc je parle de choses que les gens ont rarement envie de parler ou d'entendre.
Donc c'est en lien avec le corps, quoi, en tout cas.
En lien avec le corps et l'identité et les catégorisations sociales. Et tout ce qui est dualisation homme-femme, homo-hétéro.
Alain, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Enfin, tu connais aussi le milieu du rap. Est-ce que, moi je pense des gens comme Saïda par exemple, ou est-ce qu'il y a un discours plus féminin ou voire féministe, si ça existe, je ne sais pas. Peut-être à l'étranger.
Enfin, disons, d'abord, il faut, disons, un peu relativiser, parce que c'est pas... Chaque artiste est différent. Je pense que... Il y a des références, je sais pas si on peut dire des catégories, mais disons des courants, voilà, des courants différents, y compris au sein des femmes. Alors, disons que je vois grosso modo deux ou trois courants dans ce que je connais du rap féminin. Il y a un courant qui se bat pour qu'il n'y ait pas de différence entre les deux. Et donc, où il est a priori très difficile de distinguer si on ne sait pas qui a écrit. On ne pourrait même pas dire si c'est une femme ou un homme. Donc il y a un courant qui se bat pour ça, et c'est une manière d'exiger l'égalité. Donc c'est une des façons. À ces femmes-là, souvent, on fait des reproches très lourds. On leur dit, justement, vous écrivez comme les hommes, et ça moche, et tout ça. Enfin bon, bref. Alors il y a un courant qui est... disons, féminin, pas féministe, mais très féminin, je trouve, qui aborde un certain nombre de sujets. Et je trouve que c'est le cas d'une artiste comme Myriam, justement, ou de certains autres. C'était le cas aussi pour Mimi. C'est-à-dire, c'est pas féminin en soi, mais simplement, c'est un discours et des sujets, une façon d'aborder beaucoup plus sensible, souvent plus émotionnel, moins où on cache moins les émotions, donc plus. Mais en même temps, je sais qu'en disant ça, c'est un peu cliché parce que souvent c'est ce qu'on dit des productions artistiques qui seraient le fait des femmes, que voilà, que c'est plus sensible et tout ça. Enfin bon, ça c'est un peu le cliché, mais bon voilà, c'est quand même vrai que disons il y a des textes sur certains thèmes que les hommes n'osent pas aborder, par exemple la famille, le rapport avec les parents, dans la complexité justement, pas ce truc maman, parce que oui, il y a un truc sur donc les rappeurs qui parlent de leur mère, ça c'est vraiment un truc qui est bateau, quoi. Ils ont tous un texte sur leur mère, qui est souvent très, qui fait pleurer, hein, d'ailleurs, parce que c'est très touchant, mais disons que c'est un peu le truc bon, qu'ils ont tous fait. Mais non, c'est une autre façon de parler des rapports avec les parents, donc dans tout ce qui est compliqué, qui est difficile, tout ça. Donc il y a des textes comme ça, où. Ils ont aussi, je dirais, une écriture plus délicate, oui. Une écriture plus fine. Donc oui, voilà. Donc ça, il y a des différences, bien sûr.
Quand tu parles du courant plus féminin, donc tu parles d'une émotion, d'une délicatesse, d'une finesse. Est-ce qu'elles expriment aussi leur réalité sociale en tant que femmes?
Oui,
c'est à ce niveau-là que ça se situe aussi.
Bien sûr, il y a tout un courant. Et ça. Ça, c'est général. Donc, celles qui font du rap, souvent, consacrent quand même pas mal d'énergie à parler de ça, de manière souvent assez dure, dans le rapport avec les hommes. C'est le cas de Saïda à Bruxelles. Et aussi des rappeuses, je ne sais pas si on dit ce mot d'ailleurs, rappeuses. Enfin, peu importe.
Pourquoi pas?
Donc, en France, j'en ai connu plusieurs comme ça. Donc, qui font des textes très durs sur le rapport aux hommes, mais avec une violence incroyable. Mais bon, c'est de bonne guerre, hein, je pense. Mais c'est très, très dur. Enfin, où vraiment, elles veulent un petit peu faire rendre la monnaie de leurs pièces à pas mal d'hommes qui les ont écrasés, quoi. Donc il y a un courant comme ça, oui, c'est le règlement de compte.
Le règlement de compte. Et est-ce que le public auquel donc les artistes, devant lequel les artistes se présentent, est-ce qu'il peut y avoir des réactions différentes du public par rapport à certains propos féminins? Tu disais des choses qu'on n'ose pas toujours dire. Est-ce que la réaction, est-ce que ça produit un effet particulier, une interaction particulière entre le public et les artistes femmes? Enfin, moi, j'ai entendu parler de certaines anecdotes où ça n'a pas toujours été facile. Claudio, quelle est ton expérience à ce sujet?
Moi, tout se passe très bien et on est étonné de voir que, en fait, c'est dans les milieux qui se disent le plus ouverts qu'il y a le plus de problèmes. Mais bon, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de cette. Mais dans le milieu slam, qui est mélangé avec le milieu rap, je n'ai jamais eu aucun problème. Moi, personnellement, en tant que personne qui monte sur scène. Voilà. Je les ai eus ailleurs. Ailleurs où je ne m'attendais pas du tout à les avoir. Bon. Il y a partout des personnes qui... ouais, bon, voilà. Sinon, il y a eu la Battle MC.
Raconte-nous, c'est quoi ça?
Alors, la Battle MC, donc c'est le milieu rap. Que s'est-il passé? Donc, une Battle MC, ce sont des MC qui se battent entre eux. Et il y avait 4 groupes de femmes qui étaient invitées à faire les entr'actes.
C'est quoi le MC?
Le MC, bah, c'est le chanteur des groupes de rap.
Merci.
MC Solar veut dire chanteur, oui. Et donc, il y a des filles qui étaient habillées en tenue très courte, très osée, qui se sont fait jeter. Voilà. C'était assez violent. Moi, c'est la première fois que j'assistais à une scène comme ça, dans ma vie, en fait. ça aurait pu arriver ailleurs. Et oui. Quand on voit ça, on se dit, ouh, moi je n'ai pas envie de me prendre ça, et ça m'est arrivé ailleurs en fait.
Et donc qu'est-ce que cette expérience, que je crois qu'Alain, tu as été aussi témoin de cet événement dont parle Claudio, quel enseignement tu tires de ça? Est-ce qu'il y a, quelles étaient les raisons de ce rejet, justifié, pas justifié? Est-ce que ça renvoie à des images très stéréotypées féminines, masculines? Enfin, voilà.
Mais donc, il faut quand même préciser, ouais. Donc c'était deux artistes qui s'étaient présentés en public, habillés dans une tenue quand même assez stéréotypée, façon MTV. Donc j'étais, enfin c'était une tenue un peu provocante, très sexy, mais sexy façon MTV. Oui, ça a été très mal reçu par toute une partie, hein, parce que bon, il y a pas mal de gens qui n'ont pas réagi spécialement là-dessus. Mais il y avait au premier rang une série de personnes qui sont mises vraiment à lancer des canettes et tout ça. Et une partie de la salle qui a hué. Alors, je pense qu'il y avait pas mal de choses différentes, en fait, dans ce rejet. Il y a d'une part le fait que... ce fameux Battle MC, donc, qui est un concours de rap annuel organisé par la Zulu Nation, c'était au Botanique. Rassemble un peu la crème du rap activiste, mais qui est quand même attaché, disons, aux valeurs fondamentales de ce courant. Et donc, le hip-hop qu'on appelle conscient, enfin le hip-hop le plus militant, rejette ce genre de stéréotype qui est véhiculé par MTV. Qui considère comme une espèce de dérive commerciale qui a tué, enfin quasiment tué, le vrai caractère du hip-hop et son idéal de base. Donc il y avait toute une partie des gens qui détestaient à cause de ça. À côté de ça, il y avait une série de personnes qui étaient des jeunes, venaient des quartiers populaires et qui détestent, qui supportent pas de voir des femmes comme ça, qui considèrent comme des tenues de prostituées, quoi. J'ai assisté déjà des dizaines de fois à ce genre de scènes difficiles dans les quartiers. C'était pas spécialement avec du rap. Enfin, avec un public de rap. C'est que, donc, il y a des choses difficiles qui se passent, qui sont des espèces de chocs culturels sur lesquels il y a moyen de discuter assez longuement. Mmh. Et la conjonction de ces deux choses a fait que le public a rejeté... ça. Par ailleurs, moi je veux dire que personnellement, bon, ça me choquait pas, mais je trouvais ça assez lamentable de voir ça. Ces personnes habillées comme à la téloche, je trouvais ça nul, nul, vraiment.
Oui. Claudio, nous allons bientôt arriver au terme de l'émission, donc est-ce que tu veux conclure? Tu as un petit peu de temps sur ce point?
Conclure,
en tout cas, tu avais envie de réagir par rapport aux propos d'Alain?
Moi, en effet, ces filles, j'ai trouvé que c'était pas très malin de leur part de s'habiller comme ça. Si j'étais au premier rang, je pense que je voyais leurs petites culottes. Donc, bon, faut... Oui, c'est ça. C'est indécent pour moi de se présenter comme ça sur scène, sachant que c'est pas ça, c'est pas un show sexy. Faire de la musique, quoi.
Voilà, donc cette dernière scène renvoie quand même au stéréotype hyper féminin en lien avec la commercialisation. En tout cas, c'est l'interprétation que je fais de ce que vous dites. Je voulais remercier mes invités et éventuellement quelques petites infos utiles que vous souhaitiez faire passer. Claudio, tu voulais annoncer quelque chose?
Oui, deux événements. Le premier, la soirée haut-parleur en partenariat avec les Lézards Urbains et la Coccinelle Production le 29 mars. Donc il y a un micro ouvert du breakdance et du beatbox. C'est à l'entrepôt au 29 rue de Ménin à partir de 20h à Molenbeek.
Merci. Alain, tu voulais faire quelques infos?
Oui, demain, il y a un concours de rap à la raffinerie qui est organisé par un collectif qui s'appelle Alerte Urbaine. C'est un battle MC encore. un autre. Donc il y en a, je crois, deux ou trois par an comme ça qui sont organisés. Et ça, c'est une espèce de championnat qui va se dérouler dans toutes les villes de la communauté française. Donc ce sont les demi-finales. C'est pour Bruxelles, pour sélectionner ceux qui vont représenter Bruxelles. Après, aux finales qui se dérouleront au mois de mai à Nivelles. Donc ça, c'est demain à la raffinerie à partir de 14h.
Je vous remercie beaucoup. Donc si vous, l'émission vous a plu, vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter Vie Féminine Bruxelles au 02 513 69 00. Et notre prochaine émission aura lieu le samedi 26 avril, 13h-14h. 14h, elle portera sur la question des droits reproductifs. Je vous remercie et à très bientôt.